républicaine et contre le Tea Party. Mais là, vous aviez des animateurs de télévision qui s'adressaient à ceux qu'évoquait François Ruffin tout à l'heure, donc à la petite bourgeoisie cultivée qui regarde les chaînes câblées, qui est très politisée. Et ils ont réussi à réunir 150 000 personnes. En d'autres termes, là, vous aviez trois. Là, il n'y en avait pas deux. Il y avait presque trois cœurs sociologiques. Il y avait le cœur sociologique mouvementiste, activiste, etc. Le cœur institutionnel de la gauche lié au Parti démocrate. Et puis après, tous ceux qui sont désaffiliés, qui regardent la télévision et qui aiment s'amuser et qui détestent, évidemment, la droite, le racisme, le Tea Party et Fox News. Et il est évident que ces trois groupes sont nécessaires pour affronter, en quelque sorte, l'assaut républicain. Et il est probable que ces trois groupes se parlent assez peu.
Bon, Anne-Cécile Robert, le consensus de Berlin. Le titre me fait penser au consensus de Washington, pour tout dire. Bravo, j'ai déjà un point. Mais c'est le seul que j'aurai. Je suis en haut de ce papier comme avec des skis en haut d'une piste noire. Et j'aimerais bien comprendre quand même ce qui se passe, par exemple, en Irlande en ce moment, nos amis irlandais, ce qui se passe chez nos amis grecs, ce qui risque de se passer chez nos amis portugais, espagnols, italiens, puis peut-être un jour chez nous. Mais alors, il faut comprendre d'abord comment fonctionne l'Europe, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais c'est votre cas, en tous les cas, c'est le cas de Bernard Cassen, dont vous vous faites la voix.
Oui, Bernard Cassen publie un article dans Le Monde diplomatique de ce mois-ci, où il relate la dernière lubie, si je puis dire, de l'Allemagne, de Madame Angela Merkel, dont on connaît la volonté et la capacité d'imposer cette volonté. Et cette dernière lubie, c'est la nécessité de réviser le traité de Lisbonne pour faire entériner le fameux fonds de stabilisation financière qui est censé venir au secours des pays qui frisent la crise. Alors, réviser le traité de Lisbonne, hein, c'est un petit peu l'horreur pour les dirigeants européens parce que c'est le traité maudit. Depuis le début, il va d'échec en échec. Il a fallu l'imposer au forceps. Il y a eu le référendum irlandais, etc. Donc l'idée, il a fallu pour l'imposer, violer la souveraineté du peuple français, en particulier puisque le traité de Lisbonne est le traité jumeau du traité constitutionnel européen. Alors pourquoi Madame Merkel veut-elle réviser le traité de Lisbonne ? Ben parce qu'elle agit sur pression de la Cour constitutionnelle allemande, la fameuse Cour de Karlsruhe, qui, lorsqu'elle a autorisé la ratification du traité de Lisbonne, a fait remarquer que ce traité ne résolvait pas le fameux déficit démocratique, en français, c'est-à-dire l'absence de démocratie dans l'Union européenne, et que donc toute décision majeure le concernant devait être autorisée par le Parlement allemand. Donc Madame Merkel ne veut pas qu'on impose le fonds de stabilisation financière sans qu'il y ait des garanties démocratiques. Et c'est pour ça qu'elle a demandé et imposé à ses partenaires une révision du traité de Lisbonne. Alors ce qui est extraordinaire dans cette affaire, c'est que les dirigeants européens ont les moyens d'imposer une révision du traité de Lisbonne sans passer par une ratification en bonne et due forme. Alors ça s'applique normalement à des mesures de gestion, ce qui n'est pas vraiment le cas du fonds de stabilisation financière, hein, qui est quand même autre chose qu'une simple mesure de gestion. Mais ce qui est proprement difficile à accepter ou insupportable dans cette affaire, et c'est pour ça que Bernard Cassen explique longuement cette affaire dans Le Monde Diplo, c'est qu'une fois de plus, on va prendre une décision majeure sans demander l'avis des peuples et probablement sans l'avis des parlements, puisque d'après Nicolas Sarkozy, le président français, qui compte sur la créativité des juristes, on pourrait très bien faire cette révision sans même demander une autorisation du Parlement français. Donc tout ça confirme que l'Union européenne s'embarque dans des modes de gestion assez autoritaires, finalement, qui lui permettent de gouverner l'Europe sur des questions essentielles, des questions financières qui ont des conséquences sociales pratiques, sans finalement de mandat populaire et sans avoir de rendre de compte à personne. Et le fin mot de cette affaire, c'est que si cette révision a lieu, elle aura lieu probablement en catimini et elle aura pour conséquence de donner encore plus de pouvoir à la Banque Centrale Européenne, à la Commission Européenne, au Fonds Monétaire International, des organes sur lesquels les citoyens n'ont absolument aucune prise et qui pourtant sont à l'origine de tous les plans d'austérité et de toutes les catastrophes sociales qui nous tombent dessus régulièrement.
Merci Anne-Cécile. On continue avec Colette Braeckmann. Alors Colette Braeckmann est, tout le monde le sait, journaliste belge, au soir de Bruxelles et de